Alors, pendant quelques dimanches, nous sommes en train de parcourir quelques chapitres d'Ésaïe, on le fait de temps en temps, pour essayer de couvrir toute cette grande prophétie qui compte 66 chapitres. Donc, il serait difficile de le faire pendant 66 dimanches de suite, un petit peu de variété, mais on est en train de voir cela. Et ces chapitres, nous avons déjà vu les chapitres 24 et 25 la semaine dernière, aujourd'hui les chapitres 26, on l'appelle des fois l'Apocalypse d'Ésaïe, parce qu'il y a toute une partie apocalyptique, c'est-à-dire que comme dans le livre de l'Apocalypse, qui explique ce qui va se passer à la fin du monde. Donc, dans l'Ancien Testament, on appelle cela souvent le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, c'est l'expression qui revient tout le temps. Et pour essayer de résumer en deux phrases ce qu'on a vu la semaine dernière, nous avons vu au chapitre 25, au chapitre 24, que c'est un peu la fin du monde, le jugement, et au chapitre 24, au chapitre 25, le grand festin de la vie éternelle pour les croyants. Et donc, deux versets à la fin du chapitre 25 résument. D'abord, verset 9, « Celui en qui nous avons espéré, c'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. » Donc certains qui mettent donc leur confiance en Dieu, qui croient en Dieu pour le salut. Donc la condition, on le voit dans le Nouveau Testament, il dit « repentez-vous et croyez ». Donc se repentir, ça veut dire changer d'avis, reconnaître qu'on avait mal agi et qu'on a besoin de salut, et croyez que Jésus est mort, comme on l'a entendu tout à l'heure, est mort à notre place, qui a pris la condamnation que nous méritons pour que nous puissions être pardonnés. Mais de l'autre côté, à la fin de ce chapitre 25, on revient à Moab, donc c'était un pays voisin d'Israël, et qui servait de symbole dans ce chapitre de toute société qui se construit sans Dieu. On l'a vu dans les chapitres précédents, la Syrie, Ninive, la Babylone, Rome. Même aujourd'hui, on essaie de construire une société sans Dieu, et la réaction de Dieu, c'est au chapitre 25, verset 11, « L'Éternel abattra son orgueil malgré tous ses efforts. » Parce que c'est l'orgueil d'avoir voulu faire comme si Dieu n'existait pas, donc de tout bâtir sans Dieu. Donc voilà un petit peu le résumé, le grand jugement universel de la fin des temps, parce que Dieu quand même juge, et le grand festin de ceux qui sont sauvés, donc c'est la vie éternelle. Mais la question reste, et c'est ça le chapitre 26 aujourd'hui, donc comment on va vivre d'ici là? Parce que nous sommes sur la terre. Nous l'avons vu dans Job, mercredi soir, à un certain moment, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que je le verrai de mes yeux. » Mais après, il revient pour dire « Mais aujourd'hui, je souffre encore. » Alors, comment on va vivre d'ici là? Et c'est ça le sujet de ce chapitre 26, que l'on peut diviser en trois parties. La joie, ou surtout la paix, et la confiance en Dieu, les versets 1 à 6, et puis les versets 7 à 19, où il y a la nécessité de l'obéissance, mais aussi une certaine douleur de cette attente. Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur du monde. Et à partir du moment où on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on passe à côté de toute souffrance, de toute difficulté, on est dans le monde avec les autres, avec tout ce que cela représente. Mais à la fin, un oracle, qui est un autre mot pour une prophétie, qui vient à la fin de ce chapitre, le début du chapitre 27, parce que nos divisions de la Bible en chapitres ne sont pas inspirées, et parfois ça dépasse un petit peu le chapitre. C'est un oracle, donc une prophétie qui confirme la victoire finale. Donc c'est ça qu'on va voir. Alors revenons à la première partie, le chapitre 26, versets 1 à 6, que je vais lire. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible, il lui a fait mordre la poussière, elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Avant de regarder un petit peu en détail ce chapitre, deux mots d'introduction qui sont certainement nécessaires. Première chose, c'est que dans les prophéties de l'Ancien Testament, les temps et les périodes sont assez mélangés. Bon, on saute du passé vers l'avenir. Je pense que peut-être aujourd'hui, on a un peu plus facile que les générations précédentes à voir cela, parce que quand on va au cinéma, les films font comme cela. Il y a des retours en arrière, on saute en avant, on ne voit pas les choses dans l'ordre. Alors que le roman classique, c'était toujours dans l'ordre. Mais c'est comme ça les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, il ne faut pas s'étonner que parfois, on bouge un petit peu dans les temps. Et la deuxième chose qui est importante quand je dis ça, c'est que l'Ancien Testament est l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas encore le Nouveau Testament, il n'y a pas encore Jésus. Donc, parfois, le prophète est en train de parler de l'époque de Jésus et de notre époque, mais il ne va pas utiliser les mots que nous avons, parce que forcément, il ne connaissait pas le mot Jésus, il ne connaissait pas le mot chrétien, il ne connaissait pas le mot église. Donc, il va le dire en des termes que les gens de son époque pouvaient à peu près comprendre, sans qu'ils sachent vraiment toute la grandeur de la réalité que nous connaissons maintenant en Christ. Ce qui fait que je ne vais pas essayer de justifier tout le temps ma lecture de ce chapitre, mais sans gêne, je vais quand même parler de ce chapitre comme si ces mots parlaient aussi de l'époque actuelle, de Jésus, de l'Église, parce que finalement c'est ça. Même si les mots ne le disent pas, nous savons que c'est ça que ça veut dire, à la lumière du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Okay? C'est pour cela que, entrons maintenant dans le vif du sujet, où Ésaïe part d'une ville fortifiée. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Bon, il a certainement pensé à Jérusalem. Mais nous, on pense encore plus à cette Jérusalem céleste dont il est question dans le Nouveau Testament. J'ai mis quelques versets là, donc à l'écran, que je vais lire pour parler de cette autre réalité, parce que la Jérusalem céleste, on peut dire que c'est comme un symbole de l'Église, mais cette Église qui sera parfaite au moment de la fin du monde ou du retour du Seigneur. Donc, dans Hébreux 12, les versets 22 et 23, il parle de cette Jérusalem céleste comme étant une réalité présente. J'ai lu ces deux versets, Hébreux 12, 22 à 23. Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous. Etc, etc. Donc, ça veut dire qu'il dit, vous en tant que chrétien, il écrit à ces chrétiens hébreux, vous êtes approchés de cela, vous êtes déjà dedans. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, bon, je pense que c'est nous. Nos noms sont inscrits dans le ciel. Donc, on s'est approché de ce mont Sion, C'est la colline sur laquelle Jérusalem est construite, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. On s'est approché, on est dedans. Parce qu'en fait, c'est l'Église, aujourd'hui. La ville de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Mais, et dans les Philippiens, chapitre 3, et le verset 20, Paul écrit à ses habitants de Philippe, qui était une colonie romaine qui se trouve dans la Grèce actuelle, et il leur dit: quant à nous, notre droit de cité ou notre citoyenneté, selon la traduction, est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes déjà citoyens de cette Jérusalem céleste, céleste parce que dans le ciel. Mais on est citoyen comme une colonie de cette Jérusalem céleste sur la terre. Et Paul joue beaucoup sur cette notion de colonie dans Philippiens, parce que c'est une colonie romaine, mais il dit, mais vous, chrétiens, vous êtes une colonie de Dieu dans cette colonie, en quelque sorte, parce que vous êtes sur la terre, de notre Jérusalem céleste. Donc vous êtes comme une ambassade de cette Jérusalem céleste sur la terre. Vous êtes une colonie de cette Jérusalem céleste sur la terre. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse, on voit que cette Jérusalem céleste se manifeste aux yeux de tous. Et là, on est à la fin de la Bible, au chapitre 21, verset 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Donc, on voit que toutes ces images, c'est une ville, c'est Jérusalem, mais en même temps, c'est une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Donc, les chrétiens sont l'épouse de Christ. Bon, il y a toutes ces façons symboliques pour parler, pour dire que nous avons une ville solide, et dans la suite de l'Apocalypse, on parle de cette ville avec des dimensions extraordinaires. Donc, je reviens dans Ésaïe 26. On va essayer de rester collé au texte. Donc, je le relis le verset 1. Nous avons une ville bien fortifiée par ses murailles et son rempart. Donc, nous sommes protégés. Ouvrez les portes et laissez entrer les nations justes. Donc, quelle est cette nation juste? Certainement pas Ésaïe, pensez au peuple d'Israël. Mais dès qu'on est dans le Nouveau Testament, on voit que c'est plus large que cela. Là encore, vous n'êtes pas obligé de chercher les versets, je peux les lire. Hein, donc, dans 1 Pierre, je crois qu'il y a une erreur. Hein. C'est chapitre 2, non? Un Pierre 2, les versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges. Donc, vous, les chrétiens, vous êtes cette nation sainte qui rentre dans la Nouvelle Jérusalem. Et Ésaïe parle d'une nation juste. Et là encore, le Nouveau Testament, je pense à Romains 3, 24, nous dit que si nous sommes justes, c'est parce que nous ne sommes pas justes en nous-mêmes, c'est parce que nous sommes déclarés justes en Jésus. Donc, je vais lire les versets 23 et 24. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Bon, c'est un peu compliqué quand on rentre dans ces versets, donc je résume pour qu'on ne perde pas le fil. Ésaïe parle que en attendant le jugement dernier, il y aura une ville solide où on va être à l'abri, protégé par le Seigneur, par le peuple juste. Ses contemporains, peut-être, voyaient la Jérusalem terrestre, sur la terre, et le peuple d'Israël. Mais à la lumière du Nouveau Testament, on voit qu'il s'agit en fait de l'Église et de tous les chrétiens du monde qui sont visés par ces versets. Parce que nous habitons dans cette Jérusalem terrestre, en quelque sorte, symbolique, et nous sommes là pour attendre la fin du monde, ne sachant pas si ce sera de notre vivant, mais en vie, comme je l'ai mis à la première diapo, déjà, nous sommes déjà auprès du Seigneur, enfin, nous sommes déjà membres du peuple de Dieu, mais nous attendons la gloire éternelle. En revanche, dans ces versets que j'ai lus, les versets 1 à 6, le Seigneur est en train de dire que cette autre cité, Ninive, Babylone, Rome, aujourd'hui, va être détruite parce qu'elle s'oppose à Dieu. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, ils pensaient avoir tout le pouvoir. Et cette ville est même piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Là, il a mis au passé, et je crois qu'il faut bien comprendre la langue dans laquelle a été rédigé l'Ancien Testament pour le savoir, l'hébreu, parce qu'en fait, ils n'ont pas autant de temps du verbe que nous, et donc le passé, enfin, il y a deux temps en particulier, le temps accompli et le temps non accompli. Le temps accompli, ça veut dire que c'est quelque chose qui est passé, et le temps non accompli, bon, c'est le présent ou le futur, forcément. Et parfois, les prophètes utilisent le temps accompli passé pour dire ce qui va se passer, c'est tellement sûr que ça va se passer, je le mets au passé comme si c'était fait. Donc, quand il a dit « il accomplit », ça veut dire que c'est décidé, Dieu va le faire. Mais bien sûr, ce n'est pas encore fait, parce que nous vivons dans le monde, et le monde continue à essayer de se construire sans Dieu. Mais le plus important, c'est quand on arrive au centre de ce texte que j'ai lu, parce que là, c'est notre attitude qui est vraiment l'attitude que nous devons garder pendant ce temps d'attente, à celui qui est ferme dans ses intentions ou sa disposition, selon notre traduction de la Bible, à celui-là, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher perpétuel. Donc, il y a deux choses, la confiance en Dieu et la paix qu'il nous donne pendant cette période d'attente. Cette question de la paix, bon, on revient tout le temps, et cette confiance et paix dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, il parle donc de comment les gens s'inquiètent pour savoir de quoi ils vont être vêtus, ce qu'ils vont manger, etc. Et Jésus dit, c'est pas la peine de s'inquiéter pour ça, parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc on lui fait confiance. Dans Philippiens 4, 6, de nouveau, il dit, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose, ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit, en fait. Et puis, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et dans 1 Pierre, je me souviens, je suis tombé sur ce verset il y a bien longtemps que j'étais étudiant, la veille d'un examen, ça m'a aidé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, c'est cette attitude de calme, de confiance et de paix que le Seigneur veut nous donner dans l'attente. Parce que lui, il conduit l'histoire. On ne sait pas pourquoi il laisse faire les choses. On sait qu'il veut que le plus grand nombre puisse se tourner vers lui. Mais voilà, ça c'est la première partie, le premier message. Gardons la paix parce qu'on place notre confiance en Dieu. Mais il y a un petit verset au milieu à celui qui est ferme dans ses intentions, ou ferme dans sa disposition. Ça veut dire quoi, en fait? Et c'est là, en fait, le sujet que Ésaïe aborde dans les versets suivants. Donc, du 7 à 19, c'est l'obéissance, la paix et même la douleur de l'attente. Je vais lire du verset 7 au verset 19. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon nom désire ta présence, mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mais si l'on fait grâce aux méchants, ils n'apprennent pas la justice. Ils s'adonnent au mal dans le pays de l'intégrité. Ils ne tiennent pas compte de la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple. Ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas. Car tu es intervenu contre eux, tu les as exterminés, tu as fait totalement disparaître le souvenir. Tu as fait grandir la nation, Éternel. Tu as fait grandir la nation. Tu as fait resplendir ta gloire. Tu as reculé toutes les frontières du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils ont déversé un flot de prières chuchotées quand tu les as corrigés. Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui se tort et crie à cause de ses douleurs. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence, Éternel. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous. Exprimez votre joie, vous qui êtes couché dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Ce n'est pas le chapitre le plus facile de la Bible. Mais je me suis dit, comme la semaine dernière, est-ce qu'il y a d'autres églises évangéliques sur la terre qui cherchent aujourd'hui à prêcher sur ce chapitre? Parce qu'on revient souvent au chapitre qu'on aime, qu'on comprend mieux. Donc parfois, ça vaut la peine. Mais finalement, ce chapitre retrace tellement d'éléments de notre vie chrétienne dans cette attente que c'est un chapitre extrêmement riche. Bon, je vais essayer de le passer un petit peu en revue. Je n'ai pas le temps de justifier tous mes choix d'interprétation. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ésaïe exprimait des réalités que nous vivons dans le langage de son temps, donc il ne connaissait pas encore Jésus et le Messie. Donc ça demande toujours cette interprétation que pour le relire à la lumière de la venue de Jésus. Donc voilà quelques éléments de notre vie chrétienne en attendant ce jugement final. Verset 7. Je reviens à ma question. Ça veut dire quoi être ferme dans ses intentions? Je pense que le verset 7 le précise. Le sentier du juste, c'est la droiture. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en Dieu? C'est parce qu'on cherche quelque part à vivre dans l'obéissance, dans la droiture. Pour rappeler ceux qui me connaissent que j'ai écrit un livre sur la vie du disciple, je dis que finalement dans le Nouveau Testament, il n'y a que quatre choses. aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même, faire confiance à Dieu et combattre le bon combat de l'obéissance. Tout est couvert par ces choses. Donc là, on a parlé de la confiance. Et ici, il passe à l'obéissance. Quand on obéit à Dieu, on est d'autant plus ferme dans nos intentions. Nous faisons confiance à Dieu et nous avons la paix. Moi, personnellement, j'ai toujours été touché par une des béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce qu'en fait, quand pur, ça veut dire qu'il n'y a que le désir de connaître Dieu. Du miel pur, c'est quand il y a du miel et rien d'autre. Et un cœur pur, c'est quand on veut vraiment suivre le Seigneur et rien d'autre. Et à ce moment-là, on fait confiance à Dieu et on le voit, en quelque sorte. Et donc, c'est quoi cette attente, cette obéissance? C'est aussi notre désir, le verset 8. Nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Et donc, nous faisons appel à ton nom. Et, verset 9, et voilà ce que nous désirons. Et le verset 9, mon âme désire ta présence. La version du Semeur traduit le verset 8. Oui, tout notre désir se porte vers toi et nous voulons te garder présent à la pensée. Donc, on essaie de penser au Seigneur, de le garder dans le cœur, de lutter pour lui obéir. Et à ce moment-là, on a la paix qui nous promet. Et donc, à la fois, c'est le combat et c'est le désir. On a le désir, mais parfois, ce désir, dans notre monde, face à des tentations, demande un combat aussi. Donc, la vie chrétienne, on est réaliste. On sait que le Seigneur met le désir dans le cœur, mais parfois, il faut quand même combattre le bon combat. L'un n'exclut pas l'autre. Mais au fond de nous, on a toujours ce désir. Et on est dans le calme et la confiance quand nous mettons en pratique ce désir par l'obéissance. En revanche, donc c'est le cercle vicieux, vertueux, pardon, je dis, le cercle vertueux, les versets 8 et 9. Plus on désire le Seigneur, plus on va lui obéir. Plus on lui obéit, plus on a confiance en lui. Plus on a confiance en lui, plus on a la paix. Plus on a la paix, plus on a le désir de suivre. Donc c'est le cercle vertueux. C'est ça qui est dit. En revanche, les jugements de Dieu ne semblent pas toucher les méchants. C'est la suite de ce texte. Et dit, quand tu exerces tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice, en principe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si on fait grâce aux méchants, apparemment il n'apprend pas la justice. Il dit, voilà, le Seigneur a fait grâce, donc il n'y a pas de jugement. Et on pense que tout va bien. Il ne comprend pas que la grâce était acquise à grand prix par Jésus à la croix. Et à ce moment-là, le méchant s'adonne au mal dans le pays, ne tient pas compte de la majesté de l'Éternel. Et même, ils disent, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Dans Job, que nous avions étudié mercredi soir, il y avait un certain moment, un des amis de Job qui dit, de toute façon, la terre est couverte de nuages, donc Dieu ne voit pas à travers les nuages, donc les méchants peuvent faire ce qu'ils veulent, en quelque sorte. Hein. C'est un raisonnement un peu léger, mais un des amis de Job le disait. Et beaucoup de versets bibliques mettent ce genre de paroles dans la bouche des non-croyants. Dieu ne me voit pas, et puis de toute façon, s'il me voit, je ne suis pas pire que les autres. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je suis un peu dans la norme, donc ça va. Et même si des choses difficiles tombent sur ces personnes-là, plutôt que d'apprendre qu'il faut se soumettre à Dieu, ils vont en vouloir à Dieu. Pourquoi Dieu permet, etc. Donc, à un certain moment, il faut une vraie repentance, c'est-à-dire une vraie prise de conscience que nous devons changer notre pensée, c'est là le fond de la repentance, pour l'aligner sur la pensée de Dieu. Il y a quand même une petite chose à la fin de ce verset 11 que je trouve intéressant. Les méchants n'aperçoivent pas le jugement de Dieu, mais ils verront ton amour passionné pour ton peuple. Donc c'est ce qu'on a souvent dit, une grande partie du témoignage chrétien, c'est la vie des chrétiens, la vie de l'Assemblée, la vie de l'Église. Donc, j'ai souvent cité ici Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand des personnes voient qu'on a de l'amour les uns pour les autres, que Dieu répond à nos prières, ça peut les toucher. Et c'est pour ça qu'il faut laisser la place à ceux qui ne sont pas chrétiens, à cheminer avec nous, à les accueillir. On avait parlé il y a 15 jours de l'hospitalité, les inviter à la maison, montrer notre amour, partir du Seigneur quand on a l'occasion. Donc, les méchants peuvent voir ton amour passionné pour ton peuple. Alors, je continue, hein, parce que c'est toute la vie du chrétien. Les versets 12 à 14, l'Éternel, donc, nous assure la paix. Tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Bon, déjà intéressant. Que quand on veut servir le Seigneur, il faut à certains moments dire, et c'est toute l'ambiguïté de la vie chrétienne, je dois combattre, mais en même temps, c'est Dieu qui remporte la victoire. Je ne peux pas simplement dire, well, je ne fais rien, Dieu le fait à ma place. Mais si je dis, je vais y arriver par mes propres moyens, c'est voué à l'échec. Donc, c'est toujours le Seigneur qui l'accomplit en nous, en nous assurant son aide dans le combat. Et il y a même cette reconnaissance que avant, d'autres seigneurs, d'autres maîtres avaient dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Et c'est là qui est terrible, c'est que on voudrait annoncer l'évangile et on va revenir à ça dans les versets qui suivent. Et on a beau dire des choses, mais tellement les gens autour de nous ont d'autres maîtres qui les dominent. Quel que soit ce maître, la recherche de la sécurité, de l'argent, de l'amour, de la gloire, enfin toutes ces motivations, ces maîtres dominent. Et de plus en plus, quand je parle avec quelqu'un, donc l'Évangile, j'essaie de lui dire, mais quelle est la vision du monde que tu as? Pourquoi tu dis ça? Parce que si tu penses que la vie s'arrête à la mort, bien sûr, on n'a pas la même vision des choses que si on pense qu'il y a quelque chose après. Donc, est-ce que tu penses que si on a de l'argent, on va être heureux? Est-ce que tout le monde qui a de l'argent est heureux? Par exemple. Ce n'est pas le cas. Est-ce que tous ceux qui sont au fait de la gloire sont heureux? Il y a des vedettes qui se suicident. Donc, quelle est la vision du monde? Et la vision qu'il dit ça, que c'est que les tyrans, en fait, disparaissent, ces tyrans, comme des morts qui ne reviennent pas à la vie. Donc, quand on personnifie, on symbolise ces choses, tous ces gens-là ne vont pas survivre. Les grands empereurs de l'Assyrie, de Babylone, on ne connaît même pas leur nom. Si on va au Louvre, on voit les noms, mais bon, ça ne dit rien. À un certain moment, l'Europe entière craignait Napoléon, mais bon, on n'a pas oublié forcément son nom, mais je ne suis pas sûr quand on se lève le matin qu'on pense à lui en premier. Bon, les gens, les grands hommes passent, les grandes idées passent, qu'est-ce qui reste? Ce qui semble plus faible, bon, simplement un groupe de chrétiens qui se réunit comme nous, ça semble tout faible. Et pourtant, nous avons la vie éternelle et on sera ensemble avec tous les chrétiens du monde pour l'éternité. On semble faible et petit aux yeux du monde, mais ce n'est pas le cas. Mais dans un sens, et c'est ça, mais dans un sens, on peut aussi être vraiment content parce que le prophète dit, verset 15, tu as fait grandir la nation. Tu as fait grandir la nation, tu as fait resplendir ta gloire, tu as reculé toutes les frontières du pays. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu, mais jamais au cours de l'histoire, autant de chrétiens sur terre qu'aujourd'hui. Dans tous les pays du monde, il y a des chrétiens. Parfois en secret, en cachette, parce que il y a des persécutions. Dans certains pays, il y a énormément de chrétiens. On a l'impression qu'il n'y a pas autant en France, mais le nombre de chrétiens évangéliques en particulier est 10 fois plus nombreux qu'il y a une cinquantaine d'années, par exemple. Et pendant toute cette période, un peu partout, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, le nombre de chrétiens augmente. Jamais eu autant de chrétiens qu'aujourd'hui. Mais c'est sans triomphalisme. Et j'étais très frappé en préparant ce texte, des versets 16 à 18. D'une part, il n'y a pas de triomphalisme parce qu'il arrive que nous, les chrétiens, nous sommes dans la détresse. Ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils ont déversé un flot de prières chuchotées quand tu les as corrigées. Dans certaines traductions de la Bible, « il » c'est « nous », ça dépend du manuscrit ancien qu'on prend, mais enfin il s'agit bien des chrétiens. On a chuchoté des prières quand le Seigneur nous a corrigés, parce qu'à certains moments, tout va bien, on a la paix, on a la confiance, mais quand on se détourne, le Seigneur comme un bon père ne laisse pas faire. Donc il vient nous chercher, parfois il peut corriger même, hein, pour qu'on revienne à lui. Et là, il y a toute cette image de la femme enceinte sur le point d'accoucher, qui se tord et crie de douleur. Mais, et là, Esaïe est très, très honnête, il dit, voilà, nous avons connu cela, mais quand nous avons accouché, il n'y arrivait rien. Et c'est terrible au verset 18. Et je pense en tant que chrétien, on peut le comprendre. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Parce que combien de fois, en tant que chrétien, on témoigne, on voudrait en faire, on évangélise, on essaie de faire connaître l'évangile et finalement c'est comme du vent, il n'y a rien après. Et on peut dire, mais c'est pas possible, pourquoi les gens ne se convertissent pas? On a essayé d'apporter le salut à la terre. Et ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y en a qui sont convertis, heureusement. Mais on ne peut pas dire qu'on a complètement apporté le salut à la terre. Les gens ne sont pas tous venus à la vie. On peut être étonné, mais c'est le cas. Et donc, il y a la réalité de la croissance de l'Église, le nombre de chrétiens, mais en même temps, cette prise de conscience que, parfois, on fait plein de choses et ça couche de rien du tout. C'est réaliste dans notre monde. Mais malgré tout, la réalité finale, c'est que pour nous, il y a la résurrection d'entre les morts. Je préfère la traduction du Semeur, c'est pas que tes morts reviennent, mais tes morts revivront. Ça, c'est la grande réalité des chrétiens. Et j'ai souvent raconté cette histoire, parce qu'on vit tous des choses qui nous marquent. Quand je faisais un stand biblique en banlieue parisienne, et un syndicaliste vient me voir, pour dire, moi je suis syndicaliste à la retraite, bon, j'ai milité toute ma vie, mais ça n'a pas changé grand-chose, hein, donc finalement. Et puis il m'a dit, mais vous chrétiens, c'est pire, hein, parce que ça fait 2000 ans et ça n'a pas changé grand-chose. Et donc, je lui ai dit, si ça a changé quelque chose, parce que maintenant, il y a des millions de personnes dans le monde entier qui ont la vie éternelle. Donc, ça, cette réalité reste, même si on n'a pas l'impression d'avoir autant changé la société qu'on voudrait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer, mais il y a ce réalisme dans ce chapitre qui m'a marqué. Donc, pour terminer ce texte, on arrive à la fin de ce chapitre avec cet oracle qui confirme la victoire finale. Donc, je vais lire ces quelques versets, ces trois versets. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes et ne couvrira plus ses victimes. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée. On ne s'est pas mis d'accord, hein? C'est le sujet épée. Contre le Léviathan, ce serpent fuyard, oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, en tant que chrétien, on reste à l'abri. Donc, ce verset-là, verset 20, « Mon peuple, entre dans tes appartements, ferme des portes », en fait, une allusion à l'Exode. Quand Dieu a dit à son peuple, « Restez chez vous, mettez du sang sur le linteau de la porte, restez à l'intérieur, protégé par le sang, et le destructeur ne touchera pas le premier-né chez vous. » Donc, on reste à l'abri, on reste un peu chez nous, protégé par le sang de Jésus. Donc, c'est ça le sens de ce verset 20. Donc, cache-toi, donc, protégé pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et là, Ésaïe revient à tout ce qu'il a dit au chapitre 24, il y aura un jugement, Dieu mettra fin à ce monde, il sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. Donc, en fait, il intervient premièrement contre les habitants de la terre à cause de leur péché. Donc, tous ceux qui ne sont pas réfugiés en Jésus, protégés par son sang, parce que nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Donc, il y aura un jugement. Pas facile à dire. Pas facile à vivre avec cela. Mais dans un sens, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Dieu est juste et ne laissera pas impunies toutes les injustices qui ont eu lieu sur la terre depuis des centaines et des centaines d'années. Parce que Dieu est juste. C'est le juste juge. Et il interviendra, deuxièmement, contre ce mot, le Léviathan, ou le serpent fuyard, le serpent tortueux. Donc, il interviendra avec ça, son épée, pour le tuer. Alors, il s'agit de quoi? Bon. Il y a deux mots qui sont là. Léviathan et serpent. Donc, le Léviathan, c'était un monstre marin. Et en fait, Ésaïe a emprunté ce mot à la mythologie de païenne, donc de son époque. Donc, les païens parlaient de ce grand monstre marin qui était très mauvais. Et donc, Ésaïe utilise cela pour dire, voilà, c'est Dieu va intervenir contre le mal, qu'il appelle aussi le serpent. Alors, quand on dit serpent, là, on comprend un peu plus facilement. On pense au serpent qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu utilise ce mot serpent pour parler du Satan, du diable. Et dans l'Apocalypse, on utilise aussi le mot dragon, Léviathan, serpent, dragon, c'est un peu la même chose. Et dans Apocalypse 12, 19, donc je vais lire ce verset-là. Apocalypse 12, 9. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Donc voilà, il y a ce jugement contre ce serpent, contre Satan, et également contre les êtres humains qui ne sont pas réfugiés en Jésus. Petit verset pour terminer que je vous lis. Pour résumer ça, je n'ai pas mis sur le PowerPoint dans un Romain. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Donc nous vivons dans le déjà, sauvés, mais pas encore. Et les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Donc voilà, Ésaïe a parlé dans son langage. Je pense que ça peut nous encourager en le relisant à la lumière du Nouveau Testament. Nous devons tenir ferme dans la confiance, dans l'obéissance, parfois déçus. On n'avait pas l'impression d'avoir fait autant qu'on aurait pu, qu'on aurait voulu, mais Dieu le sait. Et son Église grandit, le nombre de sauvés grandit tous les jours. Et donc on vit quand même, pour celui qui a les intentions fermes, dans la paix et la confiance dans ce moment d'attente. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et